Bonjour à tous, vous écoutez La Boîte à Histoire.
Avec Anaïs au micro et Maëlle à la technique.
Aujourd'hui au programme, un livre que tout adolescent français se doit d'avoir lu.
Le guide pratique de l'iPhone 7.
Mais non, le grand Maulne d'Alain Fournier bien sûr.
Alain Fournier? Ce n'est pas ce type de la tombe sur laquelle tu es resté en adoration près de Verdun?
Exactement. Tu te souviens, je t'avais expliqué qu'il était mort au début de la Grande Guerre et qu'il n'a par conséquent écrit que ce livre-là.
Donc, il est hyper connu alors qu'il n'a écrit qu'un seul livre?
Oui, mais quel livre? L'histoire commence dans une petite école de campagne. François Sorel, le narrateur, raconte l'arrivée d'un nouvel élève, Augustin Maulne.
Nous habitions une partie des bâtiments de l'école publique de Sainte-Agathe. Mon père dirigeait à la fois le cours supérieur et le cours moyen.
Je vous présente un nouveau venu. Il s'appelle Augustin Maulne.
L'arrivée d'Augustin Maulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Et c'est à l'occasion de la dernière baignade de l'année que son empire s'étendit à tout le cours supérieur de Sainte-Agathe. À partir de ce jour-là, on ne l'appela plus Augustin Maulne, mais le Grand Maulne.
Sacré numéro ce Grand Maulne! Et que fait-il comme bêtise?
En voulant aller à la gare en charrette, il va se perdre et découvrir un château mystérieux. Il y a là beaucoup d'enfants qui font la fête et Augustin entre par une fenêtre pour s'y reposer. Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas qui devait être une chambre à coucher. On distinguait, dans la demi-obscurité du soir, d'hiver, que la table, la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases, d'objets de prix, d'armes anciennes. Maulne alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas, couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Un silence profond régnait sur ce domaine. Par instant seulement, on entendait gémir le grand vent de décembre. Et Maulne, étendu, en venait à se demander si, malgré ces étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l'allée, malgré les voitures entassées, ce n'était pas là, simplement, comme il l'avait pensé d'abord, une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets.
« On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part », pensa-t-il.
Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir.
« C'est clair, il a atterri dans un château hanté. »
Désolé de te décevoir, mais non. En revanche, c'est un vieux château en ruine où il se passe des choses étranges. Écoute plutôt. Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez distinctement dans la chambre. Il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau. Mais on avait omis de cirer le parquet et Maulne sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats. De nouveau, il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps. Des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches et des souliers vernis au début de ce siècle. Il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le col plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre. Il arriva, sans rencontrer personne, au bas d'un escalier de bois, dans un recoin de cour obscure. Tout y paraissait vieux et ruiné. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes, car les portes, depuis longtemps, avaient été enlevées. On n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres, qui faisaient des trous noirs dans les murs. Et pourtant, toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses, où l'on avait dû allumer les lanternes. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur, à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin qu'on aurait cru désert. Il y avait un chapeau, haute forme, très cintré, qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent, un habit dont le col lui remontait dans les cheveux, et un gilet très ouvert. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas de ce curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour-jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se retrouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. L'élégant s'y engouffra. Maul ne le suivit, et dès ses premiers pas dans le corridor, il trouva, sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites.
Et c'est là alors qu'il tombe sur des fantômes.
Mais puisque je te dis que le château n'est pas hanté, c'est une fête qui est organisée pour l'arrivée de la fiancée de Franz de Galais, fils du propriétaire. Mais comme la fête est spectaculaire, que les enfants y sont rois et que le château est à moitié en ruine, cela provoque une impression merveilleuse et féerique.
Bon, d'accord. Mais si Augustin ne rencontre pas de fantôme, qui rencontre-t-il alors ?
Une fille inoubliable, bien sûr. Sans savoir comment, Maul ne se retrouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le vent, et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui en tenant sa lèvre un peu mordue. On aborda devant un bois de sapins. Sur le débracadère, les passages durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eut ouvert le cadenas de la barrière. Avec quel émoi Maul se rappelait, dans la suite de cette minute, sur le bord de l'étang, il y avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. S'il avait regardé ce profil si pur, de tous ses yeux, jusqu'à ce qu'ils fussent près de s'emplir de larmes. Il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat, qu'elle lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve, tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers les bois, Maul ne s'avança dans une allée, 10 pas devant lui, où marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle, sans avoir eu le temps de réfléchir.
« Vous êtes belle !» dit-il simplement.
Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se rapprocha vivement de ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut soudain, venant à sa rencontre, et forcé de passer près de lui, dans l'étroit sentier. Elle écartait de ses deux mains, nues, les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs, très découverts, ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants, et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua, en disant très bas.
« Voulez-vous me pardonner ?»«
Je vous pardonne, » dit-elle gravement. « Mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu !» Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin.
« Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Maul.
Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit « Mon nom ? Je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » Et elle s'échappa.
« Et c'est tout ? Tant de mystères, juste pour rencontrer une fille ?»«
Mais non, parce que le mystère ne s'arrête pas là. Augustin va repartir du château, mais ne saura plus retrouver la route pour y revenir. Et de François, le narrateur, il passera de longs mois à essayer de retrouver Yvonne. Il va même devenir l'ami de son frère Franz, avec lequel il va partager d'autres aventures. »
Et à la fin, le grand Maul se marie avec Yvonne et tout est bien qui finit bien ?
Il se marie, oui, mais tout finit plutôt mal. Heureusement, comme la boîte à histoire s'est terminée pour aujourd'hui, je ne te raconterai pas la fin.
Je n'ai plus qu'à lire le livre, si je comprends bien.
Exactement. Quant à nous, amis lecteurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur la page web de Planète Radio.
Ou vous pouvez attendre jusqu'à la prochaine émission, après les vacances, le vendredi 10 mars.
Bonne lecture !
gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous.
Shine the moon.